La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
En ce matin, nous allons considérer la troisième parole de l'Alliance de Dieu, laquelle nous lisons en Exode, chapitre 20. Où allons-nous? En Exode, chapitre 20, verset 7. Et cette troisième parole, celui comme suit. Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Ce commandement, voyez-vous, est structuré de la même manière que le second, c'est-à-dire qu'il comporte une prohibition suivie d'une sentence, d'une menace envers celui qui n'obéira pas. Et lorsque nous considérons ce commandement, il y a trois questions qui se posent. La première est, qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du troisième commandement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Et troisièmement, quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? Si vous le voulez bien, commençons par répondre à la première question. Laquelle est, qu'y a-t-il de si important dans le nom de Dieu pour que sa protection soit l'objet du troisième commandement? Voyez-vous, dans la théologie de l'Ancien Testament, l'emploi du nom de Dieu était une manière de se référer à la personne même de Dieu. En effet, en Ésaïe 24, verset 15, où nous rendons-nous? Ésaïe 24, verset 15. Allons-y. Là, nous lisons, glorifiez donc l'Éternel au lieu où naît la lumière. Glorifiez le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Ici, nous voyons que glorifier le nom de l'Éternel signifie simplement de glorifier l'Éternel. En Ésaïe 30, versets 27 et 28 maintenant. Rendons-nous en Ésaïe 30, versets 27 et 28. Là, nous lisons, « Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère brûle et le poids en est accablant. » C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de courroux. Sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui monte jusqu'au cou. Il vient pour cribler les nations avec le crible de la destruction, pour mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les égare. Dans ce verset, nous voyons que la venue du nom de l'Éternel signifie la venue de l'Éternel. En Proverbe 18, verset 10, considérons ce passage maintenant. Où allons-nous? Proverbe 18, verset 10, c'est exact. Là, nous lisons. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. Ici, enfin, nous constatons que se réfugier dans le nom de l'Éternel signifie se réfugier en l'Éternel. Mentionner, par conséquent, le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère ainsi que sa toute-puissance. Voilà pourquoi les Israélites qui n'obéissaient pas à l'Éternel craignaient même de mentionner son nom à haute voix, de peur que ce dernier ne leur réponde par ses jugements. C'est en effet ce que nous lisons en Amos, chapitre 6, versets 7 à 11. Où allons-nous? En Amos, chapitre 6, versets 7 à 11. Amos, chapitre 6, versets 7 à 11. Et là, nous lisons, « C'est pourquoi ils vont être emmenés à la tête des captifs et les clameurs des voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Je déteste l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Que s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi. Et le proche parent d'un mort et celui qui doit le brûler le prendra pour emporter les os hors de la maison. Et il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi ?» Et il répondra, « Il n'y en a plus. » Puis, et faites bien attention, il dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel donne ses ordres et il fera tomber la grande maison en ruine et la petite maison en débris. » Ainsi, lorsque nous lisons ces versets, il est donc clair que dans la pensée hébraïque, le fait de prononcer le nom de l'Éternel revient à évoquer son caractère ainsi que sa toute-puissance. Mais il y a plus encore. L'Éternel est le Dieu vivant. Amen. Et c'est la raison pour laquelle son nom est impliqué dans des serments tels que celui que nous lisons en 2 Samuel, chapitre 2, verset 27. Où allons-nous à présent? En 2 Samuel, chapitre 2, verset 27. De Samuel, chapitre 2, et au verset 27. Et là, nous lisons, « Et Joab dit, Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, dès le matin déjà, le peuple se serait retiré, chacun de la poursuite de son frère. » Employer le nom de Dieu de la sorte, pour ensuite manquer à sa promesse, reviendrait à remettre en question la réalité même de l'existence de Dieu, mes amis. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est offensé. Lorsqu'on l'apparente ou qu'on l'associe à des paroles ou à des attitudes qui dénigrent son existence, sa toute-puissance ainsi que son caractère. Alors, je devrais le reprendre dans l'ordre suivant. Son caractère, sa toute-puissance, mais également son existence. Maintenant, qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Telle est la deuxième question que le troisième commandement nous pose, ou que nous devrions nous poser en lisant ce troisième commandement. Deuxièmement, deuxième partie de cette étude, qu'implique le fait de prendre le nom de l'Éternel en vain? Avant de répondre à cette question, remarquons tout d'abord que la prohibition du troisième commandement ne porte pas sur l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment. Au contraire, Dieu avait même demandé aux enfants d'Israël de jurer par son nom. Et ce, d'après ce que nous lisons en Deutéronome, chapitre 10, verset 20. Rendons-nous maintenant en Deutéronome, chapitre 10, et considérons-y le verset 20. Deutéronome, chapitre 10, et au verset 20. Genèse, Exode, Lévitique, Nombreux, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 10, verset 20. Et là, nous lisons que « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » L'objet de la prohibition n'était pas l'emploi du nom de l'Éternel lors d'un serment, mes amis, mais une manière bien définie d'employer ce nom, c'est-à-dire en vain. Le terme traduit par « vain » en Exode 20, verset 7, vient du nom hébreu « shav », lequel peut signifier « vanité », « futilité », « fausseté » ainsi que « iniquité ». Ce qui nous permet de comprendre pourquoi l'Éternel précisa aux enfants d'Israël, en Lévitique 19, verset 12, qu'ils ne devaient pas jurer faussement par son nom. Considérons cela, s'il vous plaît, en Lévitique, chapitre 19, verset 12. Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique, chapitre 19, et au verset 12. Lévitique 19, verset 12, où nous lisons « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Conclut-il. Mes amis, c'est sous serment que Jésus confirma aux dirigeants juifs qu'il était le Fils de Dieu, d'après ce que nous lisons en Matthieu 26, versets 63 et 64. Où allons-nous à présent? En Matthieu 26, versets 63 et 64. C'est exact. Et là, nous lisons, en Matthieu 26, versets 63 et 64. Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure. » Autrement dit, il le place sous serment. Et il lui demande de jurer. Donc, de parler sous serment. « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Verset 64, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Je m'arrêterai là. L'apôtre Paul, pour sa part, a à plusieurs reprises invoqué Dieu, le Père, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, comme témoin que pour attester que ce qu'il avait dit était la vérité. Nous pouvons lire cela en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Et là, nous lisons, « Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. » Et je vous invite à comparer à ce texte-là 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, ainsi que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 27. Ainsi, le troisième commandement ne proscrit pas le serment fait de manière solennelle au nom de l'Éternel, mais bel et bien le parjure, c'est-à-dire le fait de jurer faussement lorsque l'on est placé sous serment, ou lorsque l'on se place soi-même sous serment. Mais alors, pourquoi Jésus interdisait-il à ses auditeurs de parler sous serment en Matthieu 5? Rendons-nous dans ce passage, c'est-à-dire en Matthieu 5, lisons du verset 33 jusqu'au verset 37. Matthieu, chapitre 5, et considérons les versets 33 à 37, très exactement. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, et lisons du verset 33 jusqu'au verset 37. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du malin. » Pourquoi Jésus ici semble dire quelque chose qui s'oppose à ce que lui-même a fait, à ce que Paul a fait, et à ce qui est marqué dans l'Ancien Testament? Pourquoi il semblerait? Pourquoi on a cette impression-là? Pourquoi, dès qu'on lit cela, on a l'impression que c'est un changement total, une direction que Jésus engage ici? Remarquez tout d'abord que Jésus ne proscrit pas la prestation de serment par le nom de Dieu. Relisez le passage et vous verrez que Jésus ne proscrit pas la prestation de serment par le nom de Dieu. Mais il proscrit la prestation de serment par le ciel, le trône de Dieu, la terre, Jérusalem, ainsi que sur le fait que je prête serment sur ma tête ou sur la tête de mes enfants. Bref, ma tête à moi. C'est important de noter ça, mes amis, car cela indique que les auditeurs de Jésus, les personnes à qui Jésus s'adressait, qui étaient des Juifs, eh bien, comprenaient, ces personnes-là comprenaient que la lettre du troisième commandement leur interdisait d'employer le nom de l'Éternel, de Dieu, en vain. Mais étant donné qu'ils n'avaient pas d'égard à l'esprit de la loi et qu'ils aimaient se libérer des obligations acceptées sous serment, eh bien, ils se réfugièrent dans la prestation de serment par le nom de choses ayant un caractère élevé, tels que le ciel, le trône de Dieu, la terre, Jérusalem, ainsi que sur leur tête. Mais mes amis, cela revenait quand même à prendre le nom de Dieu en vain, d'après les paroles de Jésus en Matthieu 26, versets 16 à 22. Où allons-nous à présent? Matthieu 26, verset 16 jusqu'au verset 22. Et là, nous lit. Matthieu 23, verset 16 jusqu'au verset 22. Matthieu 23, verset 16 jusqu'au verset 22. Matthieu 23, verset 16 jusqu'au verset 22. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 16 jusqu'au verset 22. Et là, nous lisons. Verset 16. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien. Mais celui qui aura juré par l'or du temple est lié. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui rend cet or sacré? Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien. Mais s'il a juré par le don qui est sous l'autel, il est lié. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend le don sacré? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Donc, vous voyez, mes amis, ici, les Juifs, ils prêtaient serment, sous des choses sous lesquelles ils disaient qu'ils n'étaient pas liés. Ça veut dire que si tu prêtes serment là-dessus, bon, c'était quelque chose qui était assez élevé, mais tu n'étais pas lié en fait de le faire. Et c'était justement ça, pour ne pas être lié, qu'ils prêtaient serment sur des choses qui, selon eux, ne les liaient pas. Mais ici, Jésus leur explique que, étant donné que Dieu est au-dessus, en fait, c'est vous êtes en train de prendre le nom de Dieu en vain, en fait. Vous voyez comment ils avaient l'esprit tordu? Vous voyez comment leur logique était tordue? Tout ça pour se dégager des obligations dans lesquelles ils s'engageaient lorsqu'ils prêtaient serment. Ils n'avaient vraiment pas l'esprit de, ils ne comprenaient pas l'esprit de la loi, mes amis. Ainsi, nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous, premièrement, prêtons faussement serment par le nom de Dieu ou par des substituts. Et évidemment, deuxièmement, lorsque nous jurons de manière irréfléchie et intempestive, en mentionnant le nom de Dieu ou l'un de ses attributs. Par exemple, et je le dirai juste pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit, lorsque l'on dit « sur la tête de ma mère, nom de Dieu », voilà de quoi il s'agit, mes amis. Et cette manière de parler implique que nous prenons également le nom de Dieu en vain, troisièmement, lorsque nous proférons des paroles vaines, d'après ce que nous lisons en Matthieu 12, versets 34 à 37. Matthieu 12, versets 34 à 37, où il est dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, car le méchant du moins tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » Verset 36. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles et par tes paroles tu seras condamné. Mes amis, nous devons faire attention à ne pas dire des paroles inutiles. Mais nous devons également avoir un discours utile. Et il y a plus que ça, mes amis. Prenons le nom de Dieu en vain. On doit même faire attention lorsque l'on prie. L'esprit de prophétie, je n'ai pas pris la citation, mais nous précise que lorsque l'on répète trop de fois dans une prière, « Seigneur, 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 Seigneur », cela s'apparente, s'assimile à prendre le nom de Dieu en vain. On doit faire attention, mes amis, même à cela. Si vous ne le saviez pas, pense que Dieu ne tient pas compte de ce temps d'ignorance. Mais lorsque vous apprenez cela, mes amis, nous devons vraiment prendre soin de ne pas, le prendre en vain de cette manière. Cela est assez, ce que je viens de dire est assez proche de la lettre de la loi. Mais là, nous allons repartir sur des points qui vont vraiment rentrer dans l'esprit de la loi. Nous prenons le nom de Dieu en vain. Quatrièmement, lorsque nous employons le nom de Dieu pour accomplir des projets iniques. Psaume 139, verset 20, nous le dit. Psaume 139, verset 20. Il parle de toi pour mal faire. Tes ennemis jurent faussement par ton nom. Ok? Donc, on jure faussement par le nom de Dieu lorsque l'on emploie le nom de Dieu pour accomplir des projets iniques, mes amis. Nous prenons le nom de Dieu en vain lorsque nous, cinquièmement, professons le nom du Christ tout en ayant une vie opposée à cette profession. Je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Où allons-nous? 2 Timothée, chapitre 2 et au verset 19. 2 Timothée, chapitre 2 et au verset 19. Et la deuxième partie du verset nous dit quoi? Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Mes amis, nous devons comprendre quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver du péché tous ceux qui invoquent son nom. D'après ce que nous lisons en Romains chapitre 10, verset 13. Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10 et au verset 13. Où il est dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cela est clair. Cependant, lorsque nous professons être chrétiens et que nous ne nous détournons pas de l'iniquité, voyez-vous, en plus de prendre le nom du Seigneur en vain, nous pouvons alors être sûrs que notre adoration également, elle aussi, est vaine. En effet, en Matthieu, chapitre 15 et du verset 7 à 9. Je vous invite à vous rendre avec moi en Matthieu chapitre 15 et considérons le verset 7 jusqu'au verset 9. Matthieu 15, verset 7 à 9. Où nous lisons « Hypocrite ». Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes, qui sont des commandements d'hommes, devrais-je terminer. » Parce que le verset s'arrête ici. C'est grave, mes amis, d'avoir une religion qui est vaine. Tout ça parce que nous désirons vivre dans l'iniquité. Et ce, notamment en élevant des commandements d'homme, ce qui revient en fait à transgresser la loi de Dieu, lorsque nous plaçons des commandements d'homme au-dessus des commandements de Dieu. Comme nous l'avons vu durant la première partie de cette étude, le nom de l'Éternel se réfère à sa personne, ainsi qu'à tout ce qu'il a révélé de lui-même. Par conséquent, nous prenons son nom en vain lorsque, sixièmement, nous profanons ou tournons en dérision l'une des choses par lesquelles Dieu se révèle, comme sa parole. Le fait de faire des blagues sous la Bible, par exemple, eh bien, cela, ou le fait de tourner en dérision des récits bibliques. Voilà le genre de choses. Voilà quelques exemples. Mais également, septièmement, lorsque nous passons pour être fidèles au Dieu qui s'est révélé, alors qu'en fait, nous pervertissons cette révélation par des efforts visant à faire de cette révélation le moyen de manipuler Dieu. Mes amis, cette pratique que je viens de dénoncer est à l'essence même des religions païennes. En effet, la connaissance divine était vue comme un moyen d'inciter les dieux à agir à la guise de l'adorateur. Ainsi, par le troisième commandement, Dieu enseigne à ses enfants qu'il n'est pas à leur disposition. Mais au contraire, ils doivent le révérer et s'approcher de lui comme il leur révéla qu'il devait être approché. Nous prenons le nom de Dieu en vain, mes amis. Huitièmement, lorsque nous attribuons la révérence qui est due à Dieu à un homme, Psaume 111, verset 9, nous l'explique ou nous le laisse entendre. Psaume 111, verset 9. Où allons-nous? Psaume 111, verset 9, c'est exact. Là, il est dit, « Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. » Mes amis, le terme traduit par « redoutable » dans ce verset, eh bien, vient du verbe hébreu « yare », lequel peut signifier « craindre », mais également « révérer ». Les croyants qui appellent des mortels « mon révérend », des leaders religieux qui se font appeler révérend, révérend untel, révérend Watson, révérend Charlemagne, révérend, enfin bref, tout ce que vous voulez, révérend. Ce qualificatif-là, mes amis. C'est de la pure transgression du troisième commandement. Et ceux qui se font appeler révérend, ainsi que ceux qui appellent des mortels révérends, devraient rougir de cela, mes amis. Nous prenons le nom de Dieu en vain, neuvièmement, lorsque nous attachons au cérémonialisme plutôt qu'à la vérité, qui est l'essence même de la véritable adoration. En 2 Timothée chapitre 3, verset 5, nous lisons, où allons-nous ? 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5. On nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui auront l'apparence de la vérité, mais en ayant renié la force. Et il donne comme ordre à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Mes amis, si vous avez entendu le message du deuxième ange d'Apocalypse 14, ainsi que son autre partie qui se trouve en Apocalypse 18, et que vous êtes encore attaché au bâtiment ainsi qu'à l'assemblée d'infidèles qui le remplit, je vous invite sérieusement à méditer sur ce verset que nous venons de lire. Voilà. Voilà les 9 premières manières de prendre le nom de l'Éternel en vain. La 10e, quant à elle, est liée à une sentence ou à une menace. Il est donc temps pour nous, le temps est donc venu pour nous de nous poser la question et d'entrer dans la 3e partie de notre étude. Quel genre de sentence pourrait résulter du fait de violer ce commandement? En constatant l'absence d'effet immédiat, le pécheur pourrait penser qu'il n'y a aucun mal à prendre le nom de l'Éternel en vain, et que ce dernier ne l'appellera jamais à rendre des comptes pour cette transgression. Mais contrairement à l'espérance du pécheur, le commandement nous précise que l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Le terme traduit par « tenir pour innocent » en Exode 20, verset 7, vient du verbe hébreu « nika », lequel peut également signifier « laisser aller quelqu'un impunément » ou « laisser agir quelqu'un » ou « laisser faire quelqu'un impunément ». Mes amis, voilà exactement ce que l'Éternel ne fera pas si nous prenons son nom en vain. La sentence à laquelle le transgresseur doit s'attendre n'est pas indiquée dans le 3e commandement. Cependant, la Bible ne garde pas le silence sur ce point. En effet, nous allons commencer par considérer Lévitique 24, versets 10 à 16. Où allons-nous? Où commençons-nous? En Lévitique 24, versets 10 à 16. Et là, nous lisons. Or, le fils d'une femme israélite qui était fils d'un homme égyptien sortit au milieu des enfants d'Israël. Et ce fils d'une femme israélite se querella dans le camp avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom de l'Éternel et le maudit. Et on l'amena à Moïse. Or, sa mère s'appelait Shelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et on le mit en prison jusqu'à ce qu'il y eût décision selon l'ordre de l'Éternel. Or, l'Éternel parla à Moïse en disant, « Fais sortir du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Et parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché, et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. » Toute l'assemblée le lapidera, aussi bien l'étranger que celui qui est né au pays. Quand il blasphémera le nom de l'Éternel, il sera mis à mort. Mes amis, blasphémer signifie parler d'une manière irrévérencieuse à l'égard de Dieu. En Apocalypse 13, versets 1, 5 et 6, l'une des caractéristiques de la bête est le blasphème. En Apocalypse 16, versets 9, 11 et 21, ceux qui auront pris la marque de la bête continueront à blasphémer Dieu. Lors des plaies. Pourquoi? Pourquoi vont-ils continuer à blasphémer Dieu lors des plaies? C'est parce qu'en Apocalypse 22, verset 11, il est dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. » Mes amis, si nous sommes encore des blasphémateurs, lorsque Jésus aura terminé son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, sachons alors que nous continuerons à blasphémer le nom de l'Éternel, à prendre le nom de l'Éternel en vain. Dans la souffrance des plaies qui s'abattront sur nous. La dixième manière dont nous pouvons prendre le nom de Dieu en vain est lorsque nous prophétisons faussement ou dans le nom de Dieu étranger. C'est ce que nous lisons en Deutéronome 18, verset 20. Je vous invite à vous rendre avec moi en Deutéronome 18 et à lire le verset 20. Où il nous est dit: mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra, dit l'Éternel. Mes amis, par définition, un prophète est le porte-parole d'une divinité. OK? Gardez cela à l'esprit pour bien comprendre ce qui va suivre. Quels sont les deux motifs, d'après Deutéronome 18, verset 20, quels sont les deux motifs pour lesquels un prophète méritait la mort? Premièrement, dire dans le nom de l'Éternel quelque chose que l'Éternel ne lui a point commandé de dire. Deuxièmement, parler au nom d'autre Dieu, ou du moins se faire le porte-parole d'une autre divinité. Voilà, mes amis, quels sont les deux motifs pour lesquels un prophète méritait mais mérite toujours la mort, mes amis. Et vous allez comprendre. Encore une fois, gardez bien tout ce que nous venons de dire à l'esprit pour bien comprendre ce qui va suivre. Rendons-nous maintenant en Proverbe 30, verset 1. Où allons-nous à présent? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 1. Proverbes, chapitre 30 et au verset 1. Et là, nous lisons. Parole d'Agur, fils de Jakhé, sentence que cet homme prophétisa pour Ithiel et Ukal. Arrêtons-nous ici un instant. Le terme traduit par sentence dans ce verset vient du nom hébreu Massa, lequel a pour sens oracle. Et mes amis, voyez-vous, un oracle est un genre de discours prophétique. Et donc, c'est dit au combien les paroles qu'Agur prononça dans tout le chapitre 30 du Proverbe, dans les versets qui vont suivre, eh bien, c'est dit au combien toutes les paroles qu'il va prononcer sont inspirées. Alors, poursuivons notre lecture de ces paroles inspirées. Certainement, je suis le plus borné de tous les hommes. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance de ce qui est saint. Verset 4. Qui est monté aux cieux? Ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Versets 5 et 6 à présent. Prêtez bien attention à ce qui suit. Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Mes amis, notez qu'après avoir présenté les deux êtres, les deux seuls êtres, les deux seuls et uniques êtres qui étaient présents lors de la création du monde, c'est-à-dire Dieu le Père et son cher Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Agur nous assure que toute la parole de Dieu est épurée, c'est-à-dire qu'elle est digne de foi. Mais ce n'est pas tout. Il nous demande ensuite de ne rien y ajouter, de peur d'être trouvé menteur. En 1 Jean, chapitre 2, verset 22, nous lisons « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Mes amis, ceux qui enseignent qu'il y avait trois êtres présents lors de la création du monde sont en train d'ajouter aux paroles de Dieu. Et ces personnes-là sont trouvées menteurs. Ceux qui prophétisent de la sorte courent un grave danger. Car, voyez-vous, ils se font les porte-parole d'une divinité étrangère. Et d'après vous, quelle sera la sentence pour ce genre de prophète? Serait-ce la mort? Mes amis, la véritable sentence pour les prophètes de la Trinité se trouve en en Ézéchiel 13, verset 9. Où allons-nous à présent? Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Ézéchiel, chapitre 13, verset 9. Et lisons là quelle sera la véritable sentence pour les prophètes de la Trinité, mes amis. Pour ceux qui refuseront de se repentir d'avoir été les porte-parole de cette divinité. Ézéchiel, chapitre 30, verset 9, mes amis. « Ma main s'apesantira sur les prophètes qui ont des visions fausses et qui prononcent des oracles menteurs. » Notez bien ce qui va suivre. « Ils ne feront plus partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront plus inscrits sous les registres de la maison d'Israël. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. » Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi, les porte-paroles des divinités étrangères, dont la Trinité en est la principale, eh bien, ne feront plus partie de l'assemblée du peuple de Dieu. Lorsque vous êtes le porte-parole, mes amis, d'une divinité étrangère, Dieu vous retire, Dieu ne vous considère pas comme étant dans son peuple. C'est là le destin de tous ceux qui persistent à faire cela, mes amis. Deuxièmement, ils ne seront plus inscrits sous les registres de la maison d'Israël, c'est-à-dire sous le livre de vie, mes amis. Leur nom sera effacé du livre de vie. Et troisièmement, ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas dans la Canaan céleste, mes amis. Les porte-paroles des divinités étrangères n'entreront pas en Canaan céleste. Voilà, quelle sera la fin des prophètes qui auront pris le nom de l'Éternel en vain? En annonce, et ce du fait qu'ils auront annoncé des oracles menteurs. Mais quelle sera la fin? Quelle sera la fin de ceux qui auront observé le troisième commandement? Je vous invite à considérer avec moi notre dernier texte, lequel se trouve en Psaume 24, verset 3. À 6. Où allons-nous? Psaume 24, verset 3 à 6. Psaume 24, verset 3 à 6. Où nous lisons: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, la race de Jacob. Et pour ces personnes-là, mes amis, nous comprenons qu'ils entreront dans la Canaan céleste, mes amis. En effet, la fin du psaume nous l'a dit. Remarquez ce que l'on dira de ces personnes-là. Ce qui sera dit lorsque ces personnes-là entreront, iront au ciel. On leur dira: porte élevée vos linteaux, haussez-vous portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée vos linteaux, et lavez les portes aux éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est-il ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire. Je vous ai dit que voilà ce qu'on dira lorsque ces gens rentreront. Sauf qu'ici, on nous parle que ces paroles-là sont dites lorsqu'il y a un roi qui rentre. Mes amis, en fait, ces paroles-là ont été dites au ciel lorsque Jésus-Christ est monté au ciel. C'est ce que les anges ont déclaré. Porte, élevez-vous linteau. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque nous observons le troisième commandement, mes amis, cela nous avons l'assurance, mes amis, que l'œuvre que Jésus a accomplie, du fait qu'elle a été acceptée, notre obéissance aussi par Jésus sera acceptée. Notre obéissance du troisième commandement, elle aussi sera acceptée. Et c'est pour cela que nous pourrons nous rendre à la montagne de l'Éternel et marcher dans le lieu de sa sainteté. En fait, nous suivrons Jésus. Et de ce fait, pour nous aussi, les portes seront ouvertes. Mes amis, nous avons tous besoin d'apprendre à révérer le nom de l'Éternel. Et je veux pouvoir révérer le nom du Père tous les jours de ma vie. Pas vous? Si oui, alors je vous invite à prier le Père de Jésus, notre Père, en lui demandant que son nom soit sanctifié dans nos vies. Car, voyez-vous, le premier élément de la prière modèle que Jésus nous donna, que nous appelons le Notre Père, eh bien, vise justement à nous amener en conformité avec le troisième commandement. Alors prions dans ce sens, si vous le voulez bien.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.